Ça préoccupe beaucoup les associations de contribuables. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Comment ça va, Nicolas?
Très bien, vous autres.
Oui, ça va bien. C'est quoi la maladie de toujours hausser les taxes, tout le temps hausser les impôts, au lieu de dire, ben, on va peut-être s'attaquer aux dépenses?
Ah ben, c'est une bonne question. Je ne sais pas si on peut parler de maladie ou si on peut parler carrément d'une culture qui a été carrément fabriquée au cours des dernières décennies, ou est-ce que c'est interdit de s'intéresser à l'autre colonne des dépenses? On s'intéresse seulement à la colonne des revenus. Là, la semaine dernière, c'est le fameux rapport qui a été déposé à l'Union des municipalités du Québec, là, par, je pense qu'on peut l'appeler le rapport Jérôme Forget et
Marceau,
Marceau.
ouais.
Puis sinon, il y a deux, quelques semaines avant ça, c'était Québec solidaire qui est en congrès, où est-ce qu'on parle de taxer les ultra-riches. Puis sinon, avant ça, c'est une couple d'articles qui circulaient dans la presse et Radio-Canada où est-ce qu'on disait que cet automne, considérant le possible changement de gouvernement, bien, le prochain parti au pouvoir va devoir s'engager à faire le ménage dans les finances publiques. Puis par ménage, on entend encore une fois aller chercher des revenus supplémentaires, donc peut-être annuler des baisses d'impôts comme celle qui a été livrée par la CAQ. Bref, c'est comme s'il y avait un narratif qui se construisait depuis un certain moment. Puis oui, ce qui a été déposé la semaine dernière par l'UMQ, bah, honnêtement, c'est ajouter l'insulte à l'injure. Les Québécois je veux dire, ils ont rushé au cours des dernières années par rapport à l'augmentation du coût de la vie, le coût du logement, le coût de l'habitation. Puis là, on dit, ben écoutez, non, c'est pas assez. Il va falloir qu'on augmente les taxes. Il va falloir que les villes arrêtent d'augmenter les taxes en fonction de l'inflation. Puis ils se basent, par exemple, sur d'autres indices comme le PIB nominal, qui veut dire des augmentations de taxes encore plus élevées parce que les municipalités ont mal géré leurs dépenses en infrastructure. Ils ont accumulé des déficits monstrueux qui vont continuer à s'empiler au courant de la prochaine décennie, entendons-nous. Mais ça, c'est parce que les municipalités ont préféré miser sur des nouveaux projets, des nouvelles infrastructures qui n'étaient souvent pas demandées, plutôt que de prendre soin des infrastructures déjà désuètes avant même qu'elles arrivent en place, en fonction. Et malheureusement, ben, au lieu de s'intéresser à ça, on s'intéresse plutôt à l'autre partie de l'équation. Comment est-ce qu'on peut aller comment est-ce qu'on peut presser encore plus à répétition le citron qui est le Québécois, qui est le contribuable québécois? Et finalement, bon, on arrive encore avec cette proposition d'augmenter des taxes. C'est sans queue ni tête, mais malheureusement, comme vous avez pu le comprendre, c'est assez répandu comme piste de solution.
Et t'as des maires là, qui se promènent sur les tribunes puis qui disent ben c'est juste 50$ par année de hausse de taxes que ça va faire. Par-dessus tu sais, mettons, si tu dis l'inflation est à 2,5 ou à 3, ben on va vous augmenter à 4 ou à 5, mais c'est juste 50$ de plus sur l'augmentation déjà programmée, là, si on veut. Donc t'as ça, puis là, on a commencé à faire la cabale, là. Là, c'est l'infantilisation. On dit qu'on infantilise beaucoup les municipalités, puis que ça a toujours été une relation de qui n'était pas égale à égale. Et là, ben, c'est de dire, ben là, nous autres, on veut aussi notre part du gâteau, puis on veut s'occuper des champs de compétences que vous avez, vous autres, là, les champs de compétences des provinces, puis même du fédéral. On va faire ça, nous autres, dans nos municipalités. On va développer des champs de compétences à nous. Il n'y a personne qui break les municipalités.
Non, effectivement. Puis surtout qu'il y a personne qui ose littéralement les forcer à considérer ou plutôt à constater leurs propres œuvres. Quand on regarde, par exemple, l'augmentation des dépenses des municipalités comme Québec ou comme Montréal, les dépenses à chaque année ont augmenté à un rythme qui était généralement plus élevé que l'inflation. Donc, ça, c'est. Puis, même chose quand on regarde le compte de taxes, très souvent, il a augmenté au même niveau, plus élevé à Montréal, c'était notamment le cas. En plus, c'était une promesse de la nouvelle mairesse de s'assurer que le compte de taxes n'augmente pas plus que l'inflation. Finalement, c'est exactement ce qui est arrivé malgré tout. Donc, on dit, ah, ben, c'est juste 50$ de plus. Mais à la fin, c'est 50 de plus dans le portefeuille de Québécois qui en ont peut-être plus de ben-ben là, pour être en mesure de joindre les deux bouts à la fin du mois. Puis c'est sans oublier le fait qu'on l'entend souvent, cette idée-là, ah, inquiétez-vous pas, c'est juste un café de plus par semaine.
Ouais,
C'est un peu
exact.
comme ça qu'il présente. Ben, moi, je me rappelle que c'est comme ça qu'il présentait la fameuse taxe carbone il y a quelques années. Alors, c'est juste un café par semaine. De finalement, à la fin, c'est rendu pour loin de 500$. C'est rendu pour loin de 500 cafés par année que ça coûte à une famille en moyenne. Donc, généralement, ça y a comme un effet boule de neige. Puis le pire là-dedans, c'est qu'il n'y a aucune garantie que ça va améliorer quoi que ce soit. Là, c'est rendu que l'UMQ, ben, du moins dans le rapport, il propose d'avoir un genre de nouveau slush fund de pas loin de 15 milliards qui va être à la disposition des municipalités pour faire des investissements à droite et à gauche sans que ce soit trop précis. Un slush fund, ici, j'entends donc un fonds qui va être mis sur place, qui va pouvoir être utilisé à toutes les sauces, que ce soit pour une piste cyclable ou un tramway. Encore une fois, pour des nouveaux projets d'infrastructure pas tant demandés, mais imposés fortement par des municipalités qui sont déjà fortement endettés. Fait qu'il y a vraiment personne qu'on dirait qui veut s'attaquer au nerf du problème. Puis à place, on essaie de gaslighter les contribuables en leur faisant croire qu'une augmentation de taxes de 50 $, vous allez pouvoir l'endurer malgré tout. Puis inquiétez-vous pas, ça va s'arranger.
Oui, puis le problème, c'est que ça ne s'arrêtera pas là. Je veux dire, ils vont commencer par 50 $, mais au bout de la ligne, il va manquer de l'argent. Fait qu'ils vont juste augmenter cette taxe-là en plus. Donc, ça va juste être exponentiel, Nicolas.
Absolument. Puis, tu sais, déjà qu'ils sont allés chercher des taxes supplémentaires juste pour le transport en commun, via la taxe sur l'immatriculation. Puis, cette augmentation de taxes, au final, qui est quand même drastique. Là. Je veux dire, moi, dans le coin de Québec, je pense que c'est 90 $ là, la taxe approximativement. Puis, en plus, c'est indexé à l'inflation.
Ouais.
Dans mon coin, là, j'ai reçu mon immatriculation à Montréal. Écoutez, ça me coûte 400 $ pour mon immatriculation cette année. Puis, il y a 185 $ là-dessus que c'est pour le transport en commun.
Mais Québec, ben, s'en va là. Québec, ça va être ça dans pas long, là. Ils vont monter ça à 100, 200 piastres d'ici 5 ans. D'après moi, tu es à 200 piastres, là.
Pas fort possiblement. Puis tout ça, pourquoi? Pour clairer les déficits du transport en commun, du RTC ou sinon dans la région de Montréal, de la STM puis de la STL. Fait que, bref, on a augmenté littéralement les taxes sur le dos des automobilistes qui doivent assumer à la fois le transport en commun et l'état des routes pour clairer des déficits.
Mais l'argent
qui vont
va pour route.
À s'accumuler.
L'argent va pour route. Là, tu as Benoît Charrette, ministre des Transports, qui sort pour dire qu'il n'y a plus d'argent pour les routes. Mais oui, mais arrête de donner de l'argent aux déficits des RTC puis des espèces de transports en commun, puis mettez l'argent à bonne place.
Ben, c'est ça. Si 100% de l'argent que les automobilistes payent allait pour l'entretien des routes, on aurait des belles routes au Québec. On va se dire franchement, ça fait aucun sens qu'on ait les automobilistes les plus taxés en Amérique du Nord puis qu'on ait les pires routes en Amérique du Nord. Mais malgré tout, on réussit à nous faufiler des nouvelles taxes, littéralement comme celle sur le transport en commun, qui au final n'améliore pas l'état des routes ni le transport en commun, parce que c'est là pour couvrir des déficits qui s'accumulent malgré tout. Fait qu'au final, de dire qu'on va rajouter une nouvelle taxe ou un nouveau fonds pour les municipalités, c'est totalement dans le champ comme solution. Là,
ouais, là remboursement de la taxe carbone aux agriculteurs. Il y a des agriculteurs qui sont sortis la semaine dernière, mais on dit ça ne change rien. Ça ne change rien. Nos coûts sont tellement élevés que même si tu enlèves la taxe carbone, nous autres, on va être déficitaires.
C'est pas surprenant, on s'entend. Je veux dire, la taxe carbone, je pense que c'est une bonne chose que Mme Fréchette s'engage à les rembourser. Puis je veux dire, ça démontre quand même qu'il y a eu vraiment une traversée du désert là, qui s'est faite, parce qu'il y a à peine 2 ans, on parle du même gouvernement qui refusait de reconnaître qu'on avait une taxe carbone au Québec.
Oui,
puis
oui.
Là, on est rendu à rembourser les agriculteurs. Là. Donc, je pense qu'il y a quand même une évolution assez importante là, au niveau de la perspective, là, de la perception du gouvernement là-dessus. Puis l'engagement a été fait, entre autres, par Mme Fréchette et Drainville durant la course à la chefferie, où est-ce que les deux s'étaient engagés à le faire, parce qu'ils reconnaissent l'impact de la taxe carbone sur le milieu agroalimentaire, ce qui est totalement vrai en passant. Donc, le fait qu'on reconnaisse ça, qu'on reconnaît aussi que les agriculteurs ont dû payer pour loin de 2 000 000 000 $ en taxe carbone au cours des dernières années, et que ça a un impact sur le coût de l'alimentation, bien, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Maintenant, on va s'entendre, 41 millions, c'est pas suffisant, puis ça touche pas tout le monde, ça touche les agriculteurs, mais il y a plusieurs autres producteurs alimentaires,
ouais.
Comme entre de Savoura et d'autres compagnies qui, eux, n'ont pas droit à ce remboursement-là. Puis on va aller plus loin. Je veux dire, les camionneurs, ils ont aussi un impact sur le coût de l'alimentation. Ils n'ont pas droit à ce remboursement-là. Puis même chose pour l'ensemble de toutes les autres composantes des chaînes d'approvisionnement jusqu'à vous. Je veux dire, si le remboursement de la taxe carbone est bon pour les agriculteurs, pourquoi il ne serait pas bon pour les camionneurs? Pourquoi il ne serait pas bon pour les automobilistes et les familles québécoises? Puis au final, ben, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on la paye?
Ouais.
Mais pour l'instant, on n'est pas encore rendu là dans la réflexion. On est encore un peu dans des mesures électoralistes. Donc, je comprends les agriculteurs de dire que ce n'est pas suffisant parce qu'il faudrait en faire plus. Là, on parle de rembourser. Donc, encore une fois, au lieu de s'attaquer à la source du problème en éliminant la taxe, on préfère créer un genre de programme de remboursement qui va être géré par des fonctionnaires puis de nouvelles patentes administratives. Puis au final, ça ne va pas avoir un impact si important que ça, à moins qu'on l'élimine une fois pour toutes sur tous les carburants à grandeur du Québec, puis qu'on s'attaque à d'autres réglementations également.
Oui, puis on a vu aussi l'utilisation de la taxe carbone, parce que la taxe carbone, ça va dans le fonds vert, puis le fonds vert, on donne l'argent à des multinationales pour qu'ils se décarbonisent.
Oui, parce que c'est des entreprises qui n'auraient pas les moyens de le faire, là. Entre autres Glencore qui est
sa fondation. Diageo, entre autres, multinationale Diageo à la bourse.
Exact, ou Air Canada ou ArcelorMittal. Ben, bref, on ne manque pas d'entreprises qui ont été en mesure d'aller chercher des montants significatifs dans ce fonds-là. C'est un fonds qui sert aussi à distribuer des subventions pour le programme Rouler vert là, pour l'achat des voitures électriques. C'est un programme qui, de toute manière, devrait prendre fin le 1er janvier prochain. Donc, honnêtement, rendu là, ça sert à quoi de maintenir le fonds vert en place quand c'est le seul vrai programme qui est à disposition des contribuables, si on peut dire ça de même. Mais à la fin, c'est un fonds qui a été surtout utilisé pour dilapider l'argent des contribuables sous forme de subventions aux entreprises. Bref, je parlais d'un slush fund pour les municipalités tantôt, mais le fonds vert, c'est exactement ça. Puis, je veux dire, on pourrait facilement éliminer le fonds vert et la taxe carbone pour s'assurer ce que, ben en fait, éliminer la taxe carbone d'abord, puis le fonds vert pour s'assurer ce que ce soit à coût nul pour les finances publiques. Mais encore là, il y a beaucoup de pression qui est exercée sur le gouvernement pour maintenir ces programmes de subvention-là. C'est quand même assez drôle parce que des entreprises qui ont clairement les moyens d'engager leur propre enverdisation, si on peut dire ça de même, mais ils font pression sur le gouvernement pour maintenir l'accès à certains programmes qui sont effectivement payés par des contribuables, alors que ces entreprises-là ont pleinement les moyens d'assumer leurs propres dépenses.
Oui, parlant d'une autre société d'État où les contribuables paient beaucoup, la Société des alcools du Québec, on devait construire un centre de distribution dans la région de Montréal. Ça devait coûter à l'origine 48,5 millions. La facture, on est rendu à 300 millions de dollars.
Ça n'a pas de bon sens. Je sais pas c'est par combien de pourcentage qu'on doit exprimer cette explosion de coûts-là. Puis le pire là-dedans, c'est que ce que ma compréhension, c'est que le gouvernement est toujours pas capable de nous dire deux affaires. D'un, comment est-ce qu'on a réussi à faire sauter la facture, passer de 50 à 300 millions, faire sauter 12 fois la facture, ben pas 12 fois, 6 fois la facture, je pense qu'il y a quand même des détails à donner.
C'est 600% de dépassement de coûts. Puis là, on n'est pas sûr que ça va être 300 millions.
Ben, puis on ne sait même pas combien ça va coûter opérer le fameux centre automatisé. Là. C'est-à-dire que pour l'instant, on a juste une idée du coût. Déjà, moi, je m'excuse, là, mais pour le peu que je connais dans le domaine des infrastructures, j'ai jamais vu ça. Généralement, on a une idée un peu plus claire du coût réel du projet. Comment on peut passer de 50 millions à 300 millions, ça ne fait aucun sens. Puis qu'on accuse les coûts de construction uniquement, je suis désolé, mais les coûts de construction, je sais que les matériaux ont quand même augmenté drastiquement les dernières années, mais pas tant que ça quand même. Puis même chose pour la main-d'œuvre, même chose pour tout ça. Donc, on va voir qu'on décortique ça. Puis après ça, le coût opérationnel. Puis finalement, est-ce que ça va amener un gain d'efficacité pour la SAQ d'avoir ce centre-là? Ça, c'est toutes des questions auxquelles la SAQ n'a toujours pas répondu. Mais on arrive à facturer ça. Puis après ça, on se demande pourquoi ça coûte cher à la SAQ versus n'importe quelle autre succursale. Si vous allez acheter votre alcool en Europe, aux États-Unis ou même dans d'autres provinces canadiennes, oui, bon, vous êtes taxé quand même à la corde pour la moindre bouteille de vin, mais il n'en reste que ça coûte moins cher. Alors qu'ici, bon, on vous refile une facture, on prend cet argent-là pour faire des centres dont on perd littéralement, là, je veux dire, le suivi par rapport au coût comme tel.
Ils l'ont échappé, ils l'ont carrément échappé. Mais tu le vois, là, 2022, 2023, 2024, ils augmentaient toujours les budgets pour en arriver à 300 millions. Puis là, ils disaient, on n'est plus sûr que c'est 300 millions. Ça se peut qu'il y ait d'autres surprises à venir.
Ah. C'est ça, rendu là, la SAQ ou SAQ ou SAQ avec sa clique, on dirait que ça se ressemble de plus en plus. On a laissé aller un projet, on a signé à coup de décret des dépassements de coûts en se disant que c'est pas la fin du monde. Les gens vont pas s'en rendre compte ou sinon ça va se renflouer facilement parce que la SAQ, c'est le genre de vache à lait du gouvernement, donc c'est pas si grave. La réalité, c'est que ces coûts-là, veulent pas, ils vont devoir être épongés. Donc si la SAQ doit éponger plus de dépenses, ben nécessairement, ça veut dire moins de revenus pour le gouvernement, à quelque part. Donc, c'est à considérer, mais on dirait qu'on est vraiment dans une fin de régime de gouvernement où est-ce que tranquillement, on voit tous les différents projets qui ont échappé au contrôle du gouvernement. Je parlais de Saclic rapidement, mais on pourrait parler de BSN, on pourrait parler du fameux toit du stade olympique que finalement, on ne fera pas l'intérieur. On vient de se taper un toit à 1 milliard, mais l'intérieur, finalement, on ne le refera pas. Fait que c'est des jobs à moitié faits, ultra coûteuses pour des résultats qui sont honnêtement très médiocres.
Ouais, on parle des hôpitaux. Là. Il y a des gros hôpitaux en construction. Là. On me dit que les coûts, ça a défoncé total là, les objectifs qu'on avait, là, les cibles qu'on avait mises de l'avant. Bien, on n'est plus là pantoute. Et j'apprends aussi du côté de l'Ontario. Pour stocker l'alcool américain qu'on a sorti des tablettes, les gens de l'Ontario, ils ont eu le montant. Là, ça a coûté 20 millions de dollars par année. Ça coûte 20 millions de dollars par année pour stocker l'alcool, les sortir des tablettes. La SAQ n'a jamais donné les montants que ça a coûté, mais on peut penser que c'est autour de ça aussi, là. Les frais pour stocker tout l'alcool américain qu'on a sorti des tablettes pour faire pression sur les Américains, là. Donc, c'est des montants qui s'ajoutent à tout ce fiasco au niveau de la SAQ puis du centre de distribution.
Oui, c'est totalement ridicule. Pour la SAQ, je pense qu'il y avait une estimation qui a été publiée en mars dernier qui disait que ça avait coûté pas loin d'un million de dollars, là, uniquement pour les frais d'entreposage, pour les 27 millions de dollars en alcool qui a été cumulé, là, de l'alcool américain qui ne peut pas être vendu pour des décisions purement politiques et honnêtement infantiles, là, on
Ouais,
va se le
puis
dire franchement.
c'était 1 million, c'était en quelques mois, là. C'était pas l'année au complet, là. C'était vraiment ventilé de façon à ce que, oh, c'est pas grave, c'est pas des grosses données, là.
Exactement, ça n'a pas été ventilé pour l'entièreté de la période, mais juste pour quelques mois seulement. Puis encore là, on parle que des frais d'entreposage, il y a quand même d'autres frais qui sont sous-jacents, qui s'additionnent à ça. Puis il faut dire que le coût, généralement, on parle d'environ 20 à 25 % de la facture de l'alcool essentiellement, qui sont essentiellement liés à ces frais-là. Donc, on pourrait estimer là, que sur les 27 millions de dollars d'alcool américain qui finalement n'ont pas été vendus ou établetés, ben c'est pas loin du quart, c'est pas loin de 5 à 6 millions de dollars que ça coûte aux contribuables pour ne pas vendre d'alcool qui a déjà été acheté. C'est sans qu'une tête, honnêtement, c'est très, très, très. C'est digne du gouvernement québécois et du gouvernement ontarien qui sont très similaires sur ces réflexes-là.
Ouais.
Puis ça démontre encore une fois à quel point les fameuses stratégies comment dire, là, les contre-tarifs, puis la réponse américaine à travers des boycotts, comment dire, à la guerre commerciale américaine à travers des mouvements de boycott, ça a été plus coûteux pour nous qu'on l'aurait estimé. On se rappelle que les contre-tarifs avaient eu un impact sur l'inflation alimentaire, ben là, on voit qu'à quel point ça, nous, on dépense carrément, on flambe des millions de dollars pour ne pas vendre d'alcool juste par principe. Pour un principe qui, honnêtement, ne vaut pas grand-chose à la fin de la journée parce qu'on arrive bientôt à la négociation pour l'ACEUM et éventuellement, quand ça va être réglé, ben, on espère que cet alcool-là va pouvoir se vendre éventuellement, mais ça nous aura coûté combien de millions pour finalement juste tenir tête sans que personne s'en rende compte, sauf nous-mêmes, essentiellement.
Et la perte des stocks, parce que là, on donne des stocks à des organismes de charité ou je sais pas quoi, là. J'imagine qu'on a des bons contacts au gouvernement là, pour se ramasser avec des bouteilles de vin passées date ou sur le bord d'eux. Voilà. Fait qu'il y a des pertes de stocks aussi là, qu'il va y avoir dans l'inventaire de la SAQ. Nicolas Gagnon, c'est toujours un plaisir, Fédération canadienne des contribuables. Je pense que vous avez beaucoup d'ouvrages hein, dans les prochaines années.
Ben, pas mal, surtout que là, ben, c'est le dernier gros sprint avant le 12 juin. Je vous avoue qu'il y a bien du stock qui s'en vient de notre côté, surtout en prévision de la fin de la session parlementaire à Québec. Puis pour le reste, ben, c'est de s'assurer ce que le message passe le plus que possible parce que ben après le 12 juin, on tombe l'été, puis après ça, on tombe en élection, puis il va falloir que les politiciens comprennent le message avant d'aller faire du porte-à-porte.
C'est quoi la date là, au Canada, ben, au Québec quand on tombe on a payé nos taxes, nos impôts? Là. C'est au mois de juin, hein, je pense, là. La libération fiscale, il y a une date là, où on arrive et on dit bon, ben, pour le reste de l'année, je travaille pour moi, là. Donc, il y a ça aussi.
Oui,
ça.
Je pense que c'est arrivé l'année passée aux alentours du 20 juin. Il faudrait que
autour
je
de
me
la
corrige.
Saint-Jean, ouais, c'est
Mais,
ça.
ouais. Mais c'est à peu près, ça prend un peu plus de la moitié de l'année pour être en mesure d'éponger ou de plutôt de payer pour l'entièreté de nos contributions fiscales, que ce soit au niveau de l'impôt fédéral ou provincial. Donc oui, le jour de la libération s'en vient probablement juste à temps pour la Saint-Jean-Baptiste.
Bah, Nicolas Gagnon, merci beaucoup. Salut, bonne journée.
C'est un plaisir, à bientôt.
Bye
bye. Bye. Voilà. Ils n'ont pas de. Ils manquent pas, eux autres.
Ah, de l'ouvrage.
Ah, mais ils doivent capoter, eux autres.
Je comprends.
C'est juste. Tu te bats contre un. C'est comme un monstre à 8 têtes.
Paye, paye.
Coupe
paye,
une tête,
paye.
Dénonce une affaire, l'autre tête lève. Tu sais, c'est.
Voilà.
C'est un monstre, c'est ça, hein, l'État. L'État qui. Puis là, elle continue à embaucher, là. T'as vu, ils embauchent.
Ah oh, oui, ça. Ça arrête pas, tout va. Ça va bien, Pierre.
Le blob.
Ouais, rien, là.
On est là.
Voyons.
Voilà. Après la pause,
ouais.
Rodolphe débarque en plein d'affaires. Madame Fréchette, entre autres, et la politique, hein?
Ça n'arrête jamais.
On en jase.
Couture dans le mid.
Téléphone, texto. 88-670-9098.
Radio X.